Et bienvenue sur Radio Diwa 107.5 ou www.rdwa.fr. C'est l'émission Pêle-mêle-bêche. Nous sommes le premier vendredi du mois d'août et donc vous écoutez l'émission Des Jardins en compagnie de la Dream Team. Donc il y a
Olivier,
Gabriel
et Sylvère
et Jérôme, moi-même, voilà, à la technique aujourd'hui. Alors, nous allons parler eh bien, de plein de choses qui ont un trait avec, évidemment, le jardinage, puisque c'est le cœur de l'émission. On va parler d'environnement, on va parler de nature, au naturel, tout en étant naturel. Sylvère nous parlera d'un légume, on le laissera présenter ça. Et donc, voilà, bienvenue à vous, bonne écoute, bonne émission à tous. Et on va commencer avec... Gabriel,
okay.
Qui va nous parler
de l'agroforesterie. On va discuter un petit peu ensemble de l'agroforesterie. Donc ça c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'agroforesterie.
Oui,
un peu.
De plus en plus on en entend parler en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est... En fait l'agroforesterie ça désigne l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle agricole. C'est-à-dire que c'est l'introduction ou la réintroduction de l'arbre à part entière dans les pratiques agricoles, puisque, comme on le sait, on a pas mal abandonné en fait, l'arbre qui était vu comme quelque chose d'assez gênant par rapport à la mécanisation.
Exact.
Il y a eu beaucoup, notamment en Normandie, par exemple, on a rasé les haies, on a fait du remembrement. Et donc, on se retrouvait avec ce qu'on appelle l'open field, les grands champs à perte de vue,
oui.
Avec des cultures de céréales, par exemple. Et pareil, dans les zones où on avait plus de l'élevage, on a un petit peu intensifié, voilà. Et on s'est retrouvé avec énormément de bêtes qui paissaient ou qui étaient enfermées parfois aussi, qui sont. Mais on a un peu... oublier en fait cet intérêt de l'arbre qui est pourtant un intérêt reconnu depuis extrêmement longtemps et qui faisait partie à part entière des pratiques agricoles. Alors maintenant on en reparle, pourquoi ? Parce qu'on commence à essayer de réintroduire l'arbre et puis il y a des subventions, des aides aussi dans la PAC par rapport aux arbres. Maintenant on peut à nouveau introduire des arbres, je ne sais pas Jérôme si tu es au courant.
Un petit peu, mais ça doit faire partie du volet, ce qu'on appelle dans la PAC le verdissement. Verdissement de la
oui,
PAC, en
ça.
Fait, les nouvelles
Exactement.
Mesures.
Hein.
Nouvelles
Exactement.
Mesures donc agro-environnementales, chères au ministre actuel Stéphane Le Foll. Hein, que je ne fais pas de la pub pour lui, je ne le connais pas du tout. Mais voilà, mais c'est parce que il y a, à mon sens, un peu tardive, mais une prise de conscience à la fois des politiques. Des acteurs politiques et des acteurs de terrain d'avoir des pratiques d'aller vers des pratiques différentes. C'est une forme de reconnaissance de l'échec de l'agriculture que l'on connaît, de ce que tu as imagé tout à l'heure Gabriel sur le fait que l'on a remembré, fait d'énormes parcelles et des monocultures et enlevé beaucoup de diversité dans le domaine agricole. Donc c'est un bien, mais qui avance, à mon sens, après c'est mon opinion personnelle, qui avance pas assez vite,
oui.
Mais voilà. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, et tant qu'elle roule, elle fait son chemin. Quoi.
Et donc en fait, avec la nouvelle PAC, on parle de surface équivalente topographique et qui devrait atteindre les 7% de la surface agricole utile. Mmh. Et dans ces 7%, donc de ces surfaces équivalentes topographiques, il y a les arbres et les haies champêtres qui sont comptabilisés. Donc voilà, ça c'est une mesure. Et donc est-ce que vous avez connaissance, par exemple, de pratiques traditionnelles d'association de l'arbre dans le temps, c'est-à-dire depuis longtemps, ce qui se faisait, je ne sais pas, à l'Antiquité et de par le monde ?
Alors ici, dans le Diwa, traditionnellement, et ça c'est aujourd'hui, on utilise encore l'association noyer plus céréales. C'est-à-dire que le temps que la noyerée, la jeune noyerée se développe, effectivement, on a la possibilité de cultiver du blé et de l'orge. Un peu plus au sud, on va retrouver les associations chêne truffier avec la lavande. Le temps qu'un chêne pousse réellement, on a ce genre de choses. Après, c'est beaucoup moins courant dans le nord de la France. Mais après, dans l'Antiquité, j'imagine qu'effectivement, ils associaient une multitude de fruitiers et de cultures. Mais oui. Après, dans d'autres pays, on va retrouver des associations arbres fruitiers et légumes. Et étant donné que je pense surtout à peut-être à l'Afrique.
Ouais, moi aussi, les pays très chauds.
Aux oasis, voilà. En fait.
Les pays voilà. Très chauds.
Étant ouais. Donné que l'irrigation est faite d'une façon par des petits canaux, donc par immersion de la surface, et ben ça profitait aussi bien aux arbres, qui apportaient aussi un couvert végétal qui était parfois nécessaire parce que avec les fortes chaleurs, avec la forte insolation, les végétaux perdent énormément d'eau et peuvent même alors voilà, c'est on va parler un petit peu technique, l'évapotranspiration, les stomates, les petites ouvertures qui laissent libérer les gaz et la vapeur d'eau des plantes. Et ben se ferme à partir d'une certaine température et en général c'est au-delà de 30-35 degrés, ouais. Ben tout se ferme. Mm-hmm. Et l'excès de chaleur est néfaste aussi pour le végétal. Donc le fait d'avoir un couvert,
Il pousse pas pendant ce temps-là. En voilà. Fin de compte, c'est chaque jour où la température dépasse les 30 à 35, à partir de là c'est des arrêts de croissance. Donc ça a un impact sur la culture, le rendement de la culture. Ouais.
Voilà.
D'où l'importance.
D'où l'intérêt du feuillage des arbres, voilà. Pour garder une forme d'ombre et garder aussi une hygrométrie atmosphérique, une ambiance fraîche et humide autour des cultures.
Voilà.
Donc ça c'est les intérêts aériens.
Importante à la respiration des plantes. Qui est nécessaire dans le processus de croissance. Enfin, tout est lié, quoi. Mais c'est bien.
Exact, c'est bien. Exact. Et puis après, au niveau du système racinaire, c'est aussi une... Alors ça, c'est un domaine qui est beaucoup plus récent dans la science. On commence à mieux comprendre le phénomène de la rhizosphère, où l'activité biologique est très intense autour des racines, sachant que les plantes émettent ce qu'on appelle les exsudats, des substances actives qui nourrissent une multitude de bactéries, et on va avoir un milieu qui est extrêmement riche autour des racines. Donc si on augmente la rhizosphère, on augmente aussi la diversité au sein du sol, et donc une activité biologique au sein du sol, ce qui fait que les nutriments peuvent être produits en plus grande quantité pour les plantes. Et ça, il y a un réel intérêt qui est reconnu, mais en fait depuis très très peu de temps.
Voilà, oui, donc c'est la science, le monde scientifique, enfin tout ce qui est autour de l'agronomie, enfin tout ce qui est autour de l'agronomie devient de plus en plus scientifique. En fait, on essaie de rechercher dans le plus petit toujours à comprendre ces fonctionnements, quoi.
Voilà. Et puis l'étudier,
complexe
voilà. L'étudier d'un point de vue scientifique, ça permet aussi d'aller plus vite que l'empirisme. L'empirisme, c'est l'expérimentation sur le terrain, mais ça peut mettre parfois des générations et des générations pour aboutir, et s'apercevoir que finalement ça n'aboutit pas. Donc l'empirisme peut avoir des inconvénients. On en récolte souvent les fruits aujourd'hui parce qu'on perpétue des gestes qui ont été faits pendant des années. Mais en même temps, d'expérimenter aujourd'hui, alors qu'on veut vivre d'une activité agricole, ça peut avoir des effets extrêmement délicats, parce qu'on veut quand même avoir, je dirais, une opérationnalité quand même la plus rapide possible. C'est pour ça que des instituts de recherche, et notamment, y a l'INRA, mais il y a une multitude d'organismes à travers le monde qui étudient aujourd'hui l'agroforesterie, qui est une solution qui semble être d'avenir, ou une des solutions d'avenir en termes agricoles, pour augmenter la diversité végétale sur une seule et même parcelle, et limiter finalement les risques, l'expression populaire, mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que sur une seule et même parcelle, au lieu d'avoir qu'une seule culture, on peut multiplier les cultures, ce qui fait que si une année n'est pas propice au blé ou à une autre culture, eh ben au moins on peut se rattraper sur les fruits, sur la noix ou sur autre chose, sur du bois, etc.
Et bah oui, c'est ça. Et même la production de bois aussi. Hein. C'est vrai que nous, avec Gabriel, on avait vu une personne qui témoignait un peu de ce qu'il faisait en agroforesterie et disait que c'était vraiment pas négligeable. Hein, la ressource, je ne sais plus ce qu'il avait comme... Il n'y avait pas du peuplier.
Il avait du peuplier, oui.
Ouais. 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 Je sais plus quels autres arbres, mais du peuplier. Il y avait une vraie ressource économique qui était liée aussi à la production de bois, quoi.
Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai qu'il y a, pas mal d'expérimentations qui existent depuis plus d'une quinzaine d'années dans le sud-est de la France et notamment dans l'Hérault, dans les environs de Montpellier, où là c'est l'association du peuplier avec la céréale.
Voilà.
Et là, ça devient très intéressant parce qu'effectivement, le peuplier est destiné pour la production de bois, qui est une courte rotation. Hein, c'est pour ça que aussi, je dirais, dans le nord de la France, on retrouve beaucoup, et le quart nord-est, hein, en fait, aussi, on retrouve beaucoup de peuplerets parce que le peuplier, c'est un bois qui est recherché pour l'industrie, notamment faire des allumettes, faire des cagettes, faire du plaquage.
Ah oui.
Donc, c'est ce qu'on appelle un bois de déroulage. C'est un bois qui est de haute valeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il faut un grain très très fin, très régulier, sans branches, pour pouvoir le dérouler. En fait, c'est le principe du taille-crayon. On met une grume sur un portique qui tourne en permanence avec une grande lame et qui va à chaque fois que la bille tourne.
Je me suis demandé comment on faisait des cagettes.
Et ben, c'est exactement ça. On fait du déroulage. C'est-à-dire qu'on taille le crayon, on taille la grume comme un crayon et on obtient une feuille très très fine et qui permettra de faire après des applications, notamment tout ce qui est...
Donc les cagettes, c'est souvent un peuplier, là, en fait.
C'est du peuplier.
C'est du peuplier.
C'est du peuplier. Les allumettes, c'est du
peuplier. On apprend plein de choses sur Radio Diwa.
Et puis après, vous avez aussi tout ce qui est contreplaqué. Une industrie qui est énorme. Bon, alors il n'y a peut-être pas que le peuplier, il y a d'autres essences qui vont être utilisées, mais il faut des essences qui puissent être déroulées de cette façon. C'est pas du tranchage, c'est pas du sillage, parce que là ça supposerait une perte de matière énorme. Donc voilà, il y a cet intérêt d'utiliser des essences comme le peuplier, on peut récolter le peuplier au bout d'une quarantaine d'années. Donc ça veut dire que celui qui plante va pouvoir aussi récolter entre guillemets les fruits de sa plantation.
Oui, c'est pas comme planter des chênes ou...
Voilà, parce qu'un chêne, avant de le récolter, on va attendre
plus
200-400 ans, exactement.
Pour ses petits-enfants.
Voilà, un petit rappel, c'est la forêt de Troncé qui se trouve dans l'Allier, si je ne me trompe pas. Et c'est une forêt qui est de chênes qui a été plantée sous Colbert.
Oui.
Hein, et qui est récoltée, qui a été programmée pour la récolte pour la charpente navale à l'an 2000.
Ah oui.
Donc du 17e siècle à l'an 2000.
Et, ouais.
Voilà. Et oui, c'est ce que... Ouais.
On a une échelle de temps qui est totalement différente quand on est dans le domaine forestier. Et ce qui est très intéressant avec l'agroforesterie, c'est de combiner le système agricole avec le système forestier. Où les deux, en fin de compte, pendant des tas d'années, des siècles, étaient en opposition. La forêt, on n'en voulait pas. Et d'ailleurs, les premiers qui ont agi sur la Gaule... la Gaule médiévale, c'était les moines, défricheurs. Hein. Ils arrivaient dans une région qui était complètement inhospitalière, c'est-à-dire très forestière, et défrichaient une superficie importante de façon à pouvoir cultiver. Mais là, après, on est un petit peu dans une forme, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. La forêt est un milieu plutôt hostile, sombre, qui abrite les bêtes sauvages. Pour résumer un petit peu, et l'espace cultivé, l'espace ouvert est un espace qui est plus propice à la contemplation, à l'observation sur des distances beaucoup plus importantes, donc qui rassure davantage les personnes. Donc là, on est un petit peu dans l'imaginaire, dans le mythe, etc. Mais
la forêt
en fait,
inquiétante.
Voilà. Et en fait, il y a une opposition très importante pendant de nombreux siècles entre la forêt et le milieu agricole. Et c'est peut-être pour ça que, avec l'émergence de l'industrie mécanique, ben le remembrement, les haies ont été supprimées en Bretagne, en Picardie, en Normandie, dans la Beauce, la Brie, le pourtour parisien, pour laisser place aux cultures. Et malheureusement, la haie et l'arbre, on a subi de fortes conséquences.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages à mettre des arbres dans son jardin ?
Il y a pas mal d'avantages, oui. Alors, on a parlé de la production de bois. Il y a aussi le bois qui peut servir pour se chauffer, le bois de chauffage. Après, il y a différents types de bois. Le bois, on l'utilise, c'est vrai, pour beaucoup, beaucoup de choses, hein, comme tu disais, pour la construction. En fait, il y a le bois d'œuvre. Ça, c'est les grosses pièces pour la construction et la charpente. Il y a le bois d'industrie, qui sert, là c'est le bois d'œuvre et les sous-produits de l'exploitation qui peuvent être transformés en emballage, en matériaux reconstitués, en panneaux isolants, des bûches de bois compressées, des fibres, de la laine ou de la pâte à papier. Donc, et enfin, il y a le bois de service. Donc là, c'est le bois de menuiserie et les petits bois. On peut se servir par exemple du buis qui est très dur ou de l'osier qui est très flexible, de la viorne, du troène ou même de la ronce qui peuvent servir de lien. Voilà, on a des usages domestiques ou industriels. On peut fabriquer les manches d'outils, les poignées, des jouets, des objets, des ustensiles divers, hein, notamment on sait dans les cuisines. On a beaucoup d'ustensiles en bois.
Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour la plante? Moi, je pensais aux feuilles notamment. Est-ce que, ici dans cette émission, on parle souvent de pailler son jardin, de l'amender pour la fertilité du sol. Alors peut-être, je me disais, les feuilles de ces arbres qui tombent directement sur le jardin, peut-être que là, c'est un avantage aussi intéressant.
Mais je crois que Denis Flores, là, qui a son exploitation dans le Gard, effectivement, il a ses cultures maraîchères sous les arbres. L'intérêt en fait d'avoir des feuillus aussi, c'est que les feuilles tombent à l'automne et donc ça produit un paillage qui va se décomposer tranquillement pendant l'automne et l'hiver. Et puis ça laissera la lumière passer et puis ça va refaire un ombrage pendant la saison chaude. Et comme disait Olivier, c'est vrai qu'on pense que certains légumes ont besoin de beaucoup beaucoup de chaleur, mais enfin trop c'est trop. Et finalement on voit bien, même des légumes gourmands ou dont on sait qu'ils aiment la chaleur, comme les tomates ou les aubergines, finalement ils arrivent à bien pousser quand ils sont en milieu légèrement ombragé, qui gardent l'humidité. Ils sont très heureux.
Et d'ailleurs, si on s'inspire un peu de la forêt, mais il y a toutes nos plantes cultivées à la base étaient des plantes pour la plupart qui poussaient en forêt sous les arbres, en fin de compte.
Et puis dans la forêt, voilà, il y a tout ce côté apport qui va faire de l'humus, là, les feuilles qui tombent. Et puis on utilise aussi les branches broyées pour faire du broyat qu'on peut mettre au sol aussi,
et
comme
voilà,
le BRF.
On peut se faire son BRF directement.
Voilà, oui, ça c'est un des autres usages du bois. Ils font ça aussi en agroforesterie. Là, tous les résidus de taille vont aller nourrir le sol entre les légumes. Alors, il y a d'autres intérêts aussi dans le fait d'avoir des arbres et des arbustes, puisqu'on peut avoir différentes strates. C'est qu'on attire quand même pas mal les pollinisateurs, puisque les arbres, on peut les choisir aussi, choisir les espèces, avoir des haies diversifiées et avoir des arbres qui ont des floraisons qui vont nourrir les abeilles et tous les pollinisateurs.
Et abriter d'autres insectes aussi qui joueront des rôles de prédateurs. Et toute cette diversité-là va venir réguler et limiter la casse en termes de parasitisme. Mmh. Et voilà. Et puis, de toute façon, un environnement plus un environnement est diversifié, plus il va y avoir une somme parfois inquantifiable d'êtres vivants qui fait que tout ça crée ce qu'on appelle tout simplement un équilibre.
Le milieu forestier n'est pas indemne, effectivement, de tout ce qui est ravageur et maladie. Et pour endiguer, ça veut dire de multiplier les variétés, c'est multiplier les espèces de châtaigniers, les espèces d'ormes, etc., pour éviter que les ravageurs ne se développent. Donc, halte aux clones, halte à la monospécificité.
Et oui, ça permet aussi d'ailleurs d'abriter une faune et une biodiversité très grande, puisqu'on aura des floraisons étalées dans le temps et qui vont permettre de nourrir les insectes pendant plusieurs mois d'affilée. Par exemple, on a un noisetier qui va fournir une source de nourriture grâce à ses chatons et le pollen dès le mois de février. On en a d'autres comme ça. On peut essayer d'implanter en fait des arbrisseaux et des arbres qui vont pouvoir nourrir la faune tout au long de l'année, le plus tôt possible, par exemple avec les floraisons. Voilà, bah on a vu, donc c'est intéressant ce que tu disais, hein, c'est important de varier. En fait, dans le temps, il y a eu des expériences, des pratiques, on va dire, traditionnelles qui intégraient l'arbre. Par exemple, on parle de hautain. C'était une pratique qui était décrite et conseillée par Columel et Pline l'Ancien au 1er siècle donc, de notre ère et qui a été beaucoup utilisée au Moyen-Âge. Et donc, dans ces hautains, les arbres étaient très espacés. Ils servaient de tuteur à une vigne. Et on cultivait aussi donc, des céréales entre les arbres. Donc, on avait une association comme ça de trois types de cultures. Pareil, on a aussi l'association des chênes qui produisent donc des glands avec les pores qui paissaient en dessous, enfin qui paissaient, qui...
Oui, bah oui, justement, c'est parce que je t'écoutais et je voulais rajouter qu'en plus de l'association arbre et végétal cultivé type légumes et céréales, on peut aussi introduire une troisième donnée qui est l'espèce animale qui, elle, vient réguler aussi, toujours dans le même cadre que ce que je disais tout à l'heure, réguler les populations d'éventuels parasites. C'est-à-dire que dans les vergers, moi j'ai un copain qui est retraité qui pratique encore ça, c'est-à-dire qu'il a, il a des cochons justement, il a des poules et en fait il met dans ses vergers il parque ses cochons et ses poules avant maturité des fruits, avant récolte, ce qui fait et après récolte, ce qui fait que avant récolte tous les fruits qui sont parasités par les vers sont mangés par ces animaux, donc les vers sont les vers, enfin les parasites de ces fruits sont mangés, donc on le cycle est cassé, c'est-à-dire que le ver ne reste pas dans le fruit, c'est dans le cadre d'un ver, il ne va pas se transformer en adulte pour aller se reproduire et à nouveau pondre et maintenir la population. Et après récolte, pareil, les fruits donc, qui n'ont pas été récoltés pour X raisons, que ce soit pour des défauts par rapport liés à la non-commercialisation de ces fruits-là ou parce que des fruits atteints de maladies ou de parasites ne peuvent pas être cueillis, et bien sont mangés, voilà. Et donc là, on introduit un troisième élément important qui peut et qui vient, qui non pas qui peut, mais qui participe justement à la qualité sanitaire et donc au bon développement de tous les êtres vivants situés sur la parcelle, quoi.
La régulation, oui. Et puis c'est aussi une bonne source de nourriture pour le bétail qui peut manger qui mangeait avant des feuilles ou des tout petits branchages, des feuilles, des aliments plus ligneux et donc qui fournissent une nourriture plus équilibrée, pleine de minéraux, d'oligo-éléments. Et ça a donné justement une alimentation plus équilibrée. Par exemple, les vaches maintenant qui mangent des choses trop... du grain, beaucoup de grains, des choses trop azotées, qui ont des selles, qui ont la diarrhée, etc. Alors que quand elles mangeaient des choses plus consistantes et plus saines, c'est un peu comme nous, les fibres, quand on mange des fibres.
Plus de cellulose, quoi.
Voilà. Et bien, c'était autre chose. Et c'était une source de nourriture aussi intéressante pour le bétail. Voilà, effectivement, l'arbre peut servir à énormément de choses. Il a beaucoup d'utilité dans le domaine agricole. Et puis, on en reparlera la prochaine fois parce qu'il y a aussi des pratiques de jardin-forêt notamment. Enfin bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et des utilités aussi qu'on n'a pas tellement développées. On en reparlera avec plaisir la prochaine fois puisque l'arbre, c'est un de nos sujets de prédilection. Et donc, on va pouvoir écouter « Auprès de mon arbre » de Georges Brassens, qui parle aussi de la chaleur et de la force de ce que symbolise un arbre pour nous, quoi, pour l'homme, qui c'est quelque chose de très fort.
Super belle chanson.
Ouais, on écoute ça.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Voilà, donc vous êtes bien toujours dans l'émission Pêle-mêle Bêche sur Radio Diwa 107.5 ou sur internet rdwa.fr. Et donc après cette chronique sur l'arbre et cette jolie chanson de Georges Brassens, nous allons retourner au potager avec Silver qui va nous parler aujourd'hui d'un légume. Alors quel légume as-tu choisi, Silver, aujourd'hui ?
Eh ben là j'ai choisi un légume de saison là qui se mange au mois d'août. J'ai choisi l'aubergine pour ce mois-ci.
Ah super, l'aubergine.
Donc un vrai légume d'été. Donc toujours pareil, j'ai fait quelques petites recherches sur le côté un peu histoire et puis après on parlera un peu de l'aubergine au jardin. Alors l'aubergine c'est une plante annuelle, encore de la famille des solanacées, comme la tomate ou la pomme de terre dont on a parlé dans d'autres émissions précédentes. Mais cette fois, ce n'est pas une solanacée d'Amérique du Sud, c'est une solanacée du Moyen-Orient. Donc l'aubergine, vous avez une idée de quel pays vient l'aubergine à la base ?
D'Afghanistan ?
La Chine ?
D'Iran ?
Ouais, bah, c'est pas loin. Bon, les origines anciennes, c'est Inde et Birmanie, c'est un légume du Moyen-Orient. Ça vient de zones tropicales bien spécifiques de l'Inde, où l'aubergine, dans ces pays-là, c'était une plante vivace. Donc, je pense plutôt petit arbuste qui donnait un peu des aubergines et qui restait vivace. Et là, encore une fois, il a fallu donc la main de l'homme pour adapter ce légume fin et capricieux aux différentes latitudes et pouvoir arriver à le faire pousser un peu sur toute la planète. Et voyons un peu son histoire. Donc, c'est un légume qui est de culture assez récente. Ça fait 3000 ans qu'on cultive l'aubergine. Comme ses cousines solanacées, c'était une plante redoutée. En hindi, on l'appelait bangana. Ça vient de banga, qui veut dire plante vénéneuse. Donc, toujours pareil, hein, toutes les solanacées avec la morelle, la datura.
La datura, oui.
Voilà, donc c'est une famille de plantes vénéneuses. Donc c'est toujours des plantes qui ont été introduites doucement parce que les gens étaient très méfiants.
La belladone.
Voilà, la belladone aussi, la fameuse belladone. Et donc ça a démarré en Inde. Il a fallu plus de 1000 ans pour que les Chinois l'adoptent. Et c'était une plante qui était rare et réservée aux hautes classes. C'était notamment un des cadeaux qui était fait sous la dynastie des Ming. C'était un des cadeaux à l'empereur d'offrir une aubergine. Et c'était pas un légume de base, loin de là. C'était un légume raffiné qu'on cuisinait avec beaucoup d'épices et qui venait vraiment agrémenter les plats.
Ah, mais je comprends pourquoi on parle de caviar d'aubergine.
Caviar d'aubergine, tout à fait. Et donc l'aubergine, elle est arrivée tout doucement chez nous. Donc elle a transité d'abord par la route de la soie. Donc on imagine qu'elle est arrivée pour la première fois en Europe par des vendeurs de soie qui auraient amené des aubergines et des graines d'aubergine. Mais c'était assez anecdotique en fait. Donc par la route de la soie, l'aubergine, elle a d'abord traversé l'Iran, où là elle a été acclimatée petit à petit. Et elle a été adoptée complètement par la gastronomie iranienne, qui cuisine l'aubergine de 100 façons différentes. Et qui commence d'ailleurs souvent par jeter carrément les aubergines sur la flamme ou dans les braises et par les griller. Et là, je vais mettre l'eau à la bouche aux gens qui n'ont pas encore mangé. On finira par une petite recette à la fin. Donc après l'Iran, notre aubergine, elle a voyagé dans le monde musulman. Elle a voyagé en Afrique du Nord, puis doucement, elle est arrivée en Europe par l'Espagne, en Andalousie, à l'époque de l'Andalousie musulmane. Et elle est arrivée en Espagne au Xe siècle environ. Elle est apparue donc assez tôt en Occident, donc de façon anecdotique par la route de la soie et puis un peu plus tard en Espagne en étant passé par l'Afrique. Mais c'est un légume qui, même s'il a été planté de ci de là en Europe, il a pas eu de succès franc. Ça a mis aussi beaucoup de temps à ce que ce légume rentre dans les mœurs. Et on le trouvait à l'époque beaucoup trop âpre et amer. Donc il s'est pas implanté tout de suite. Au XVIe, ça a été le moment des conquistadors, et du coup, ça on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, ça a été les légumes venus d'Amérique du Sud, comme la pomme de terre, la tomate ou le haricot, qui sont arrivés chez nous, alors que l'aubergine, elle, avait toujours pas vraiment percé, en fait. Elle était connue, mais pas consommée. Et puis du coup, à ce moment-là, c'est plutôt ces nouveaux légumes qui ont été plus populaires. Et en France, mis à part en Provence où on connaissait la ratatouille depuis le 19e, l'aubergine, elle a seulement été reconnue comme légume à part entière il y a seulement une quarantaine d'années. Donc c'est très récent en fait.
Ah bon ?
Au moment de ce qu'on appelle le grand brassage gastronomique. Et c'est plus ou moins la moussaka grecque qui a répandu en fait l'aubergine qui est devenue un plat en fait commun chez nous.
D'accord.
C'est passé par l'aubergine et puis la ratatouille. Mais je veux dire, avant ça, c'était vraiment un légume très anecdotique. Ça restait une curiosité. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'aubergine. Ça fait partie, je crois que c'est la 9e légume en production mondiale, au niveau mondial.
Ouais.
Donc une grosse partie qui reste produite au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on redécouvre des variétés anciennes d'aubergine, comme peut-être vous connaissez la variété eggplant, là, qui fait des petites aubergines blanches en forme d'œuf.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on redécouvre aussi des aubergines un peu de différentes formes et couleurs. On a des aubergines zébrées, on a des aubergines longues. Et voilà, donc l'aubergine, je ne sais pas si les jardiniers qui sont autour de la table, ce n'est pas la plante la plus facile à faire pousser. C'est une plante, donc on l'a dit, qui est native de l'Inde tropicale. Donc une plante qui est assez exigeante en chaleur. Pour faire ses semis, c'est très compliqué. Bon, en général, la plupart des gens achètent leur plant pour les repiquer. Toi, Jérôme, tu as fait du semis d'aubergine ?
Oui, oui, je faisais du semis d'aubergine. Alors, en démarrant tôt.
Voilà.
Suivant l'installation. Moi, j'avais une installation où je pouvais chauffer l'atmosphère du lieu de semis. Donc, du coup, je démarrais début mars. Et ensuite, je faisais une plantation le plus tôt possible, mais sous serre, quoi.
Voilà.
Je ne faisais pas de culture en extérieur, parce que là, c'est vrai qu'en extérieur, sous nos climats, enfin le climat du Diwa, hein, il faut vraiment planter un plant très développé, qui soit suffisamment fort, qu'il ait déjà développé une certaine force, quoi, qui commence déjà à être un peu ligneux, hein, le tronc ait commencé à faire un peu du bois, pour éviter, parce que c'est très 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 gélive. Quoi, très gélive.
Oui, c'est ça,
une plante qui est très gélive, la feuille est duveteuse et très, très fragile. Et les petites gelées ou même parfois les températures très froides qui peuvent être surprenantes en milieu de printemps là peuvent générer la mort des extrémités des feuilles. Hein. Des fois on voit dans les jardins après un coup de froid les aubergines pof elles deviennent brunes sur le bord en fait c'est que certaines cellules des extrémités sont mortes.
C'est pour ça que dans mes recherches là j'ai découvert qu'en fait ça je le savais déjà un peu c'est que aujourd'hui la grosse partie des maraîchers utilisent des variétés hybrides pour l'aubergine.
Oui.
Et en fait,
des greffés aussi.
Et ben voilà, ça je vais en parler aussi. D'accord. Un peu. Donc maintenant, beaucoup de plus en plus les plants greffés. Mais je veux dire, pour pouvoir avoir des aubergines un peu précoces sur le marché et la faire pousser sous serre en début de saison, ils ont été obligés d'aller chercher des variétés hybrides qui supportaient des conditions de serre.
Oui.
Et des conditions de début de saison, parce que sinon la plante ne tenait pas. Quoi. Oui. C'est vraiment une plante qui est hyper exigeante.
Même sous serre, hein, moi, c'est une plante que
même sous serre.
En fruits, en faisant des variétés à partir du semis, en faisant des variétés non hybrides, c'est jamais avant début août, quoi, la production. Même sous serre. Hein. Donc, c'est vrai qu'après, dehors, il faut des années exceptionnelles, je pense, pour avoir si on veut pas des variétés hybrides ou non greffées, il faut une année très très propice à sa croissance, quoi.
Ouais, voilà. Et puis oui, voilà. Et puis effectivement, de plus en plus maintenant, on va vers des variétés greffées. Donc le principe des variétés greffées, donc c'est de greffer une variété d'aubergine soit sur une tomate, soit sur ce qu'on appelle un porte-greffe hybride interspécifique. Donc là, en fait, je ne connaissais pas du tout, j'ai fait des recherches là-dessus. Apparemment, c'est sûr, c'est le porte-greffe, dans ce cas-là, c'est le croisement d'une tomate sauvage avec une tomate cultivée. Donc ils ont été recherchés des variétés sauvages de tomates.
D'accord.
Et ils ont du coup développé ce qu'ils appellent les variétés KNVF, donc des variétés qui sont très résistantes sur différents points, notamment à pas mal de maladies. Et puis après, il y a une troisième solution, il y en a qui greffent aussi sur Solanum torvum. Donc là, c'est une plante vivace tropicale proche de l'aubergine. Donc a priori, sur mes recherches là sur la greffe, ce que j'ai pu voir, c'est que une des premières raisons pour laquelle la greffe est arrivée en maraîchage, c'était de compenser des pertes de rendement dues à l'absence de rotation sous serre. Donc effectivement, vu que c'est tout le temps fait sous serre et que les maraîchers ne peuvent pas la faire avec des grandes rotations s'ils n'ont pas beaucoup de serre. Mmh. Donc pour compenser les baisses de rendement, ils sont allés vers la technique du greffage. Mmh. Et puis aussi sur un site québécois, j'ai vu qu'au Québec, le greffage il était apparu comme une solution pour les maraîchers bio pour lutter contre la maladie des corky roots, des racines liégeuses. Et qu'en fait, donc c'est une maladie, d'accord, apparemment, une maladie du sol qui intervient sur tomates et sur aubergines.
Oui.
Alors peut-être toi, tu ne connais pas parce que non. C'est peut-être plus une maladie qui arrive dans vraiment des cultures plus intensives. Mais apparemment, c'est une maladie donc, qui se met dans le sol et qui peut être très difficile à s'en débarrasser.
D'accord.
Pour laquelle ils n'ont en général pas d'autre cours de faire stérilisation du sol. Hein. Donc ils stérilisent le sol avec de la vapeur d'eau.
C'est magnifique.
Et du coup, au Québec, ils en sont arrivés à aller chercher la technique du greffage pour trouver des porte-greffes résistants à cette maladie des corky roots. Voilà, donc à la base, c'était quand même vraiment réservé aux professionnels. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se répand chez les particuliers. Maintenant, on trouve des plants d'aubergines greffées sur le marché de Die, chez Gamme Vert. Je crois que de plus en plus, les jardiniers vont vers ça.
Oui.
Moi, j'ai pas vraiment d'expérience avec ça. Voilà, bon là ça devient, c'est assez technique et puis là on s'éloigne un peu du bio parce que je crois que du plant greffé en bio ça n'existe pas ou c'est très difficile à trouver pour les particuliers, ça existe peut-être pour les pros mais...
Oui pour les pros ça existe, après c'est difficile de rentabiliser en bio des plants greffés parce qu'en fait les pépiniéristes doivent être hyper spécialisés pour ceux qui font le greffage, parce qu'il y a beaucoup de casse en fait, au moment du greffage. Parce qu'il y a plusieurs techniques de greffe, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs techniques de greffe, mais comme souvent on greffe un arbre, eh bien, on en fait plusieurs de greffe pour être sûr qu'il y en ait au moins une ou deux qui prennent, et il y en a parfois, ça ne prend pas. Et en fait, sur le greffage, greffage d'aubergine ou greffage tomate aussi, parce qu'il existe des tomates greffées, en fait, sur les plantes potagères, il y a quand même pas mal de casse, quoi. C'est-à-dire
ouais,
pas beaucoup
fait,
de pertes.
Oui, donc ça fait des plants qui sont vendus très cher au final.
Et du coup, derrière, voilà, forcément, il faut compenser la perte. Et donc, ça fait des plants qui sont vendus très cher et qui sont même très chers pour le professionnel. Donc, pour l'amateur, ce serait encore plus cher sans doute, quoi.
Voilà, donc pour parler un peu de la culture de l'aubergine, donc ça se plante mi-mai en même temps que les tomates, etc. C'est une plante qui se taille un petit peu. Alors ça, j'en ai fait quelques fois des aubergines. Avant, je les taillais pas. Donc là, du coup, je me suis un peu documenté. Apparemment, il y a une taille de gourmand qui se fait comme sur les tomates où on taille donc du coup les petits rejets qu'il y a en bas de la plante. Et puis il y a aussi une technique où on taille la tige principale au-dessus de la première feuille pour faire courir des tiges secondaires. Mais moi, Jérôme, est-ce que tu taillais tes aubergines, toi ?
Oui, alors il existe plusieurs types de tailles. Moi, celle que je pratiquais, c'est je laissais la plante s'exprimer donc au début, après plantation, de façon à ce qu'elle se développe. Et une fois que son développement commençait à être assez fourni, j'enlevais les gourmands qui poussent comme les tomates aux aisselles des feuilles. Et donc, j'enlevais les gourmands jusqu'à l'apparition du premier bouquet floral. Et après, d'accord, je touchais plus rien.
D'accord.
Voilà. Il y a d'autres techniques. Là, je suis en train de. Je regarde en même temps que tu parles. Là,
est-ce que tu réduisais le nombre de fruits? Parce que ça,
non,
c'est
pas du tout.
Chose de, une question que je me pose encore.
Est-ce pas du tout.
Non, tu laissais faire.
Non, je laissais faire.
Okay.
Je laissais faire, sachant que plus on laisse fructifier tard, et moins on aura de chance de récolter, et plus on récoltera si on récolte des petits fruits. Mmh. Voilà. Ouais. Mais sinon, il existe d'autres tailles. Hein. Je consultais vite fait là, le guide du jardinage de Clause, un vieux bouquin des années 50 que j'ai là. Et eux, ils disent de supprimer les pousses secondaires qui partent du collet.
Ouais.
Donc de ne laisser qu'une tige charpentière. Et de la pincer au-dessus de la deuxième inflorescence. Et de ne laisser qu'un fruit à chaque étage de fleurs.
Ouais,
donc vraiment de limiter la production et de branches et de fruits.
Ouais, donc bon, ça devient un peu technique. Hein,
mais bon, en faisant comme ça, je pense qu'on va vers une notion de ce qui, en jardinage, est acceptable, mais en maraîchage, peut-être pas. C'est d'aller vers une optimisation du fruit, c'est-à-dire avoir les fruits les plus gros possibles.
Ah oui,
parce
d'accord.
que moins il y a de fruits sur plante, et plus ils seront gros. Et donc rechercher un rendement maximal pour le jardinier. Donc ça peut être une technique à essayer au jardin.
Oui. Ok. Bon, sinon, c'est une plante aussi qui a un système racinaire très superficiel.
Ah oui.
Donc ça implique différentes choses. Ça veut dire qu'il faut penser à la buter un petit peu pour l'aider à se tenir, surtout au moment où il y a la mise à fruit. Et puis, au niveau de l'arrosage aussi, a priori, contrairement à d'autres plantes pour lesquelles on conseillerait d'arroser moins souvent, mais en plus grande quantité, apparemment, pour l'aubergine, c'est vaut mieux l'arroser de manière modérée et régulièrement, parce que c'est une plante, du coup, du fait de ce système racinaire très superficiel, c'est une plante qu'il faut... Et apparemment, le manque d'eau et l'arrosage abondant, ça entraîne la chute des fleurs. Donc, ce serait vraiment apparemment un légume à arroser plutôt un peu et souvent. Voilà.
Juste au niveau du butage, je suis pas adepte de trop parce que l'aubergine, elle, comme c'est une plante très ligneuse, elle forme une écorce. Et le fait de buter, faut pas buter très très haut, hein, faut vraiment y aller mollo parce que, ou alors avant la formation du tronc qui ressemble vraiment, c'est du bois, hein, parce que ça peut entraîner des pourritures qui peut entraîner la perte du plant.
D'accord.
Donc plutôt que le butage, moi je préfère le tutorage.
Lui mettre un tuteur.
Ouais, et ça c'est important, il faut mettre un tuteur costaud, hein, il faut mettre un bon piquet, voilà, depuis qu'elle puisse se soutenir, parce que bon, l'aubergine, le fruit, quand c'est en fruit, c'est lourd. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà, bon, après, si vous. Je pense aussi en même temps, je ne l'ai pas dit au début, mais si vous n'avez pas de serre, ce qui peut être intéressant aussi pour réussir l'aubergine en extérieur, c'est de la mettre contre un mur. Si jamais vous avez la chance d'avoir un mur contre lequel vous pouvez planter, ben là, il va bénéficier de la chaleur du mur. Donc là, ça va. Adi, il y a beaucoup de jardins d'Andy, de jardiniers qui font ça, hein, qui mettent leurs aubergines alignées contre les murs. Voilà, en termes de maladies et de ravageurs, c'est un peu comme les autres solanacées, il peut y avoir un risque de mildiou. Donc là, on peut préventivement faire des pulvérisations de purin d'ortie et de prêle. Il peut y avoir des problèmes de nématodes, de vers nématodes. Donc là, la prévention, c'est les œillets d'Inde. On met souvent les œillets d'Inde dans le potager, c'est souvent pour cette action qui est recherchée, hein, donc de faire fuir les vers nématodes. Après, on peut aussi avoir... éventuellement des doryphores, pareil que sur les pommes de terre,
oh oui.
Qui viennent pondre sur les aubergines. Donc là, c'est toujours pareil. Le plus facile, c'est de faire ça manuellement, donc d'observer un peu le dessous des feuilles. Et puis, s'il y a jamais des pontes, de venir écraser les feuilles, les œufs avec le pouce.
Et à prélever les adultes qui, eux, mangent les feuilles. Hein.
Oui, c'est ça.
Même et les si adultes mangent les feuilles. Hein, donc,
d'accord.
On le voit tout de suite, hein, quand il y a du doryphore. Et ils les sentent, mais c'est impressionnant comment ils arrivent à trouver les aubergines. Quoi.
Ah ouais, donc ils aiment bien ça
ils
aussi.
Adorent,
hein.
Ils adorent,
ils adorent. Ok. Et puis après, oui, ça peut arriver aussi un peu des problèmes de pucerons, d'acariens. Donc là, dans ces cas-là, c'est peut-être bien de prendre la solution savon noir ou alors type décoction d'ail. Ça peut les faire partir. Donc voilà, j'avais envie de donner une petite recette pour terminer.
Ben oui. Mets-nous l'eau à la bouche.
Voilà, en fait, donc j'ai choisi une recette mais qui est simplissime, mais qu'on ne pense pas toujours à faire finalement. C'est une recette provençale, c'est les aubergines au feu provençal. Donc c'est simplement une recette d'aubergines grillées. D'accord. Donc là, le principe, en plus, là, l'été, c'est la saison des barbecues. Le principe, c'est donc il faut des aubergines, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc le principe, c'est de laver des aubergines, de ôter la tige et de les larder avec de l'ail. Donc il faut prendre des gousses d'ail qu'on a coupées en deux, donc les frotter avec l'ail et là les mettre directement sur la braise d'un barbecue, ou alors si on n'a pas, on peut le faire aussi sur la flamme d'un gaz. Et là, de les tourner régulièrement et de faire griller la peau jusqu'à temps que la chair soit tendre. Et là, on les retire du feu, on peut les couper en tranches dans la longueur et simplement saler, poivrer et arroser d'huile d'olive. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'aubergine grillée.
Non, pas du tout.
Et ben, moi, j'ai eu l'occasion de le faire une fois pour faire une transformation, le hachevar, là, qui est une espèce de purée de poivron et aubergine.
Hachevar. Excuse-moi, c'est la prononciation.
Aïvar. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et apparemment, dans la cuisine iranienne, c'est toujours comme ça qu'ils démarrent les aubergines, c'est grillé.
Remarque, donc, voilà. C'est peut-être le nom iranien. Hein. Peut-être que c'est la prononciation iranienne.
Non, je sais pas.
Moi, je connais dans les Balkans, quoi. Ils font, enfin, en Macédoine notamment, ouais. Tout ça, où ils font avec beaucoup de poivrons. Ouais,
ouais, avec beaucoup de poivrons. Ouais, c'est une pâte qui est délicieuse. Sont grillés au four de la même façon, en fait. Ouais.
Ça, c'est bon aussi.
Et donc, voilà, si vous avez des aubergines, que c'est un barbecue.
C'est un peu long à cuire, non ?
L'occasion d'essayer. Ouais, je pense que ça doit. Ils ne m'ont pas donné les temps, là. Mais je pense que ça prend un petit peu de temps. Ouais.
Ça doit, ouais. Ouais, mais bon, en général, quand on fait un barbecue, on est entre amis, on a le temps. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Et voilà.
Voilà, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que c'est comme ça aussi qu'on démarre un caviar d'aubergine, en les faisant griller. En raclant la chair, simplement mixée avec du sel et peut-être un peu d'huile, et ça donne le caviar d'aubergine.
Mmh. D'accord, bon. Et ben on se renseignera sur cette deuxième recette.
À table. Voilà, à vos
fourchettes. Bon appétit. Hein.
À vos fourchettes, messieurs, dames. Eh bien, on fait une petite coupure musicale. Donc là, oui. Je vous avais amené une chanson. Vous allez voir, c'est un rap. Ça s'appelle Les Potagers. C'est une chanson qui a été faite par les potagers urbains de Bruxelles, donc qui fait un peu la promotion du potager en ville. Et puis, des toilettes sèches aussi. Vous allez voir, si vous écoutez les paroles, elle est très rigolote.
C'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Je fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marrant. Ici tu pousses des bêtes, et des petits marrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde s'accarate et tout le monde son poireau. Personne qui parle, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans avoir personne ne reste sur le côté. TSP. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le bois, mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes la chasse et t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses rouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, 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 alors rejoins le toilette sèche pour moi. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde s'accorde et tout le monde s'en poireau. Personne qui parle, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sur le cochon et tout le monde tamponné. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler, mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires, je cultive la terre. Me shoot au nucléaire, mec je connais les affaires. Big up aux fruits, aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dumps de Shaquille. Dimanche je pile mon tracteur en mode gangster. La steadka à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon trou, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde à carotte et tout le monde sans poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Yo, bang, bang, monkey mix, MC Grenadier, MC Click 2012. Yo, ya, yo, ya, Bruxelles, Belgique.
Vous êtes toujours sur Radio Diwa 107.5 FM ou rdwa.fr et c'est l'émission Pêle-mêle bêche avec l'équipe au complet dans le studio. Voilà, donc après le potager, ben on va passer à Olivier qui va nous parler aujourd'hui de
gaspillage.
De gaspillage.
Voilà,
on
c'est
t'écoute.
C'est l'été, on commence à récolter à tout va dans le jardin et effectivement je voudrais parler de gaspillage et puis un petit peu plus de glanage, de cueillette, etc. J'ai repris quelques chiffres de la FAO qui indiquent que, de par le monde, il y a 1,3 milliard de tonnes d'aliments qui sont jetés, perdus, gaspillés. Et ça, c'est impressionnant quand même ce chiffre.
Vertigineux.
1,3 milliard de tonnes.
Par an.
Par an, mais oui, par an. Par mois, ça
depuis,
serait énorme.
Depuis ouais. Des millénaires, non, évidemment.
Non, c'est pas un cumul, c'est chaque année, un tiers de la production, entre un tiers et entre 30 et 40% de la production agricole mondiale. C'est jeté. C'est énorme. Et jeté.
Et
jeté,
c'est
gaspillé, mis au rebut parce que ne rentre pas, par exemple, dans des standards de normalisation, des calibres, etc.
Ouais. C'est un petit peu illustré par ce film-là, We Feed the World.
Exactement, je voulais en parler. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a des références comme ça qui sont très.
Il montre l'exemple du pain là aussi, où là, c'est sur ce sujet-là. Les images sont frappantes
voilà,
aussi.
C'est des tonnes et des tonnes de pain qui sont fabriqués d'une manière industrielle, certes, mais en tout cas qui sont incinérés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Le pain, il faut savoir aussi, ça se composte très très mal. Ça pourrait servir d'alimentation animale,
bien sûr.
Le pire des cas. Bah, là, même pas. Ça alimente des centres d'incinération, des usines, des chauffages urbains qui vont
chauffer les piscines.
Par exemple, non, mais ça
je dis votre pain, ça chauffera votre piscine.
Ah, oui. On comprend bien que ça prend une part qui est énorme et en fin de compte, en Europe, là on va être un petit peu plus proche de nous, parce qu'il faut savoir que c'est quand même les pays du Nord, hein, les pays industrialisés qui gaspillent le plus,
ben oui.
Mais pas que. Voilà, je vais faire un petit topo.
Vas-y.
Quand même en termes de chiffres.
Tout ce paysage.
En Europe, on est à peu près à 89 millions de tonnes, donc ça fait quand même pas mal. Et depuis quelques mois, l'Europe réagit par rapport à ça. Il y a des questions qui font bouger un petit peu les choses. En France, on voit qu'il y a un plan anti-gaspillage qui se met en place petit à petit, des réglementations, des incitations à la réutilisation, aux dons pour les associations caritatives, etc. Mais on est loin d'atteindre la perfection. C'est une préoccupation majeure et qui incite finalement l'Union européenne à considérer l'année 2014 comme l'année anti-gaspillage, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et l'Europe souhaiterait réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Donc ça veut dire de diviser par deux cette quantité monstrueuse de 89 millions de tonnes, sachant que tout compris... Et là, je ne parle pas que du particulier, mais tout ce qui concerne l'industrie alimentaire, le commerce, etc., sont gaspillés par habitant 179 kilos de denrées alimentaires. Quelque chose qui pourrait être consommé, mais qui ne l'est pas. 179 kilos par habitant et par an, en Europe. Voilà. Alors, quand on revient...
Oh, c'est énorme.
Parce que voilà, effectivement, on parle, là je parle par habitant, c'est ramené à toute la chaîne. Toute la chaîne.
Est-ce que tu as le détail de savoir quelle partie est jetée vraiment par monsieur et madame tout le monde et quelle partie...
Alors voilà, en France, on estime, les chiffres de l'ADEME indiquent plutôt 20 kilos par habitant et par an. Gaspillé. Mmh. La FNE, France Nature Environnement, estime plutôt 30 kilos, mais on serait entre 20 et 30 kilos, manifestement. C'est quand même parfois difficile d'avoir des chiffres très précis. Si je prends les chiffres de l'ADEME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, on arrive à 7 kilos de denrées alimentaires emballées, jetées par an et par habitant.
Oui, c'est-à-dire pas consommer, voilà.
C'est-à-dire
pas ouvert, donc quelque chose
qui...
Du supermarché au frigidaire
voilà.
À la poubelle, quoi.
Quelque chose qui aurait éventuellement dépassé la petite date limite. Mm. Et là, je voudrais faire une petite aparté par rapport à ces mentions de date de péremption, parce que là, ça y est, le gouvernement français réagit quand même par rapport à ceci. Il y avait quand même une... Quand on parle de date limite, on se dit, mince, entre le 13 et le 14, à minuit pile, l'aliment, il est plus bon, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le jeter. Et ça a quand même lancé pas mal d'ambiguïté dans la tête de beaucoup de consommateurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu un petit remue-ménage de la part de nos technocrates pour essayer de limiter finalement cet impact de date limite. Si je parle de DLC, date limite de consommation, c'est une formule qui consiste à dire à consommer jusqu'à une date bien précise, et ça concerne uniquement les aliments périssables, que l'on conserve uniquement au frais. Donc là, on peut considérer effectivement de la viande, qui est un aliment sensible, effectivement, on peut pas se permettre de conserver un aliment et de consommer un aliment qui pourrait éventuellement passer cette date. Mais par contre, quand on a la DLUO, ce qui signifie la date limite d'utilisation optimale, qui, en d'autres termes, est une formule qui consiste à dire à consommer de préférence avant telle date. Ça concerne plutôt des produits en conserve ou des produits conditionnés en sec. Et donc, ça veut dire que, tout simplement, que ces produits peuvent être consommés quand même après cette date. Mais en revanche, il y a un petit risque de perte de saveur, de goût, de texture. Donc là, il y a eu quand même une petite précision par rapport à ces dates de péremption, mais il n'empêche que on est d'accord de vous à moi, mais en tout cas moi je vais parler de ma propre expérience. Lorsque je mangeais encore des laitages, un yaourt qui avait une semaine ou deux semaines de date dépassée, ça m'empêchait pas de le manger et je ne suis jamais tombé malade. Mais bon, je ferai pas la même chose avec la viande, bien entendu.
Évidemment.
Mais on est bien d'accord que pour certaines personnes et notamment lorsqu'on est dans des collectivités, notamment des colonies de vacances, lorsqu'on est sur de l'alimentation, la restauration collective, et ben personne ne veut prendre le risque de ce genre de choses. Donc on se retrouve avec des quantités qui sont jetées, qui ne sont plus considérées comme donnables non plus, on ne peut plus les donner à des associations, et on se retrouve avec des quantités qui sont monstrueusement importantes, et ça arrive à des abus. Mais plus que ça, il y avait un article que je lisais encore hier, lorsque je préparais ma chronique. Il y a une demande d'un député européen qui concerne la TVA. Lorsqu'un supermarché se retrouve avec un stock d'aliments qui a dépassé la date, au lieu de le donner, comme c'est aujourd'hui permis, il y a aujourd'hui une bourse aux dons qui existe actuellement en France, qui vise à sélectionner des associations caritatives qui pourront donner après par la suite des aliments. Une entreprise, donc un supermarché, au lieu de donner, préférera jeter parce qu'elle peut déduire la TVA sur son chiffre d'affaires.
Oui.
Alors que si elle fait un don, elle devra payer la TVA.
Ah, oui.
Rien que ces petits trucs qui font des blocages, et ça, je dirais, c'est quand même révoltant.
Oui, mais de toute façon, la grande distribution, ils sont loin de donner, je pense, parce qu'ils en sont carrément.
Aussi, ça peut arriver quand même.
Oui, mais bon, ils en sont aussi à balancer de la javel sur ce qu'ils jettent dans les poubelles pour pas que les gens les récupèrent.
Pas donc que la grande distribution d'ailleurs, même des restos, des trucs comme ça. C'est par rapport à.
Alors il y a un changement. Alors tout le monde n'agit pas comme ça. Il y a un changement de mentalité. Il y a des accords qui sont conclus parfois avec des collectivités territoriales. Donc voilà, c'est quand même hallucinant parce que en revenant un petit peu sur quelques chiffres pragmatiques, on parle toujours de pouvoir d'achat et pour une famille européenne de quatre personnes, un foyer de 4 personnes.
Je croyais que tu allais dire de 4 enfants, mais ça me paraissait beaucoup comme moyenne européenne.
Un foyer de 4 personnes en Europe, on pourrait faire une économie de 400 à 500 euros par an. En faisant attention justement de ne pas acheter trop, de réutiliser finalement les excédents cuisinés la veille, accommoder les restes.
Bah avant, il y avait des cours d'économie ménagère et puis apprendre à accommoder ses restes et tout ça. La bonne tout ménagère, fait, ouais. Elle savait faire ça, mais bon, c'est vrai que...
Voilà, exactement.
Les choses ayant évolué, il n'y a plus personne qui est en charge de...
C'est devenu banal.
C'est devenu
complètement banal de vider le reste des assiettes, des plats à la poubelle. Quoi.
Ben oui,
voilà,
oui.
Voilà.
Donc là, on
garde pas les fins de plat. Moi, j'ai une amie qui fait des super tartes comme ça. Elle appelle ça la tarte de fond de frigo.
Ah oui, bah,
elle récupère tout là.
Et moi, ma mère, elle a toujours tout recuisiné.
Et c'est ça, à chaque fois.
Si tu finissais pas la viande, ça finissait en hachis. Si tu finissais pas, ça faisait toujours recuisiné.
Exactement.
En plus, on forçait pas alors à terminer à tout prix. Ça, c'est pas mal aussi. De ne pas dire toujours, fini ton assiette, mange tout.
Ça dépend.
Ça dépend.
Mais n'empêche que, voilà. C'est pas toujours, il faut tout finir ou sinon ça va partir à la poubelle.
Ouais.
Mais c'est vrai que des familles nombreuses, parfois ça complique les choses.
Mais moi je voulais juste revenir sur les chiffres que tu avais donnés au départ parce que tu nous disais, si j'ai bien retenu, 170, presque 180 kilos. Par personne donc de denrées gâchées. Mmh. Et puis au niveau domestique, on arrivait à 20-30 kilos.
Oui. Mmh.
Donc moi, je voulais juste me dire, bon, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui jettent encore de la nourriture à la maison. Mais là, avec les chiffres, on voit que le gros du problème, il n'est pas chez monsieur et madame tout le monde. C'est en amont qui se passe, en fin de compte.
Ben exactement. Hein, voilà. Donc on fait beaucoup de communication par rapport aux particuliers, ce qui est très bien. Parfois, on peut même aussi le culpabiliser pour ceux qui font déjà pas mal d'efforts. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe pour les restaurants? Qu'est-ce qui se passe dans les...
Et
dans
même
les...
à la production. Moi, je peux témoigner un petit exemple qu'on connaît. Tu en parlais au départ, l'histoire du calibrage, le fameux calibrage. Mmh. Et bien, il y a 5-6 ans en arrière, j'ai fait les récoltes de kiwis en Corse. C'était une année où il y avait des magnifiques kiwis. Et il s'est avéré que le producteur en question, il a jeté, mais c'était plus de la moitié, moi je pense que c'était près des 2/3 des kiwis parce qu'ils étaient trop gros. Alors
ils n'allaient pas se vendre. Quoi.
Alors voilà, le kiwi corse, c'est déjà un gros kiwi parce que le kiwi qu'on mange tous, c'est le kiwi de Nouvelle-Zélande, qui est un tout petit kiwi. Mmh. En Corse, il faut un kiwi qui est un peu plus gros. Et là, cette année-là, le kiwi était plus gros que la normale. Et au final, il a balancé les 2/3 de sa récolte. Parce qu'ils étaient trop gros. Et nous, on voyait des tonnes de kiwis magnifiques qui finissaient en tas au fond du champ. Enfin, je veux dire, il est vraiment là le problème. C'est qu'il y a c'est les circuits de commercialisation qui sont dans des produits normés et que du coup, dès que ça sort un peu trop gros, trop petit, alors après, ils ont des filières des fois pour des jus, pour des yaourts, pour valoriser le hors calibre, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, ça fait des pertes, mais là, c'est autre chose que les 20 ou 30 kilos par an par habitant, là, c'est des tonnes d'un coup, quoi.
C'est clair qu'au niveau des champs, on a une perte qui est énorme, hein, je disais entre 30 et 40% de perte, d'une manière générale, hein, c'est une moyenne au niveau mondial. C'est quelque chose qu'on peut réduire considérablement, et l'une des choses que l'on peut faire, c'est déjà qui est à notre portée, c'est le glanage.
Hein, ce qui se faisait avant beaucoup.
Il y a l'association Ondine, par exemple, dans la région lyonnaise. C'est une association où il y a une multitude d'agriculteurs et principalement des agriculteurs bio qui sont réunis et qui indiquent, à tel endroit, telle parcelle, il y a telle chose à récolter. À glaner.
Ah oui,
glaner, hein, il y a vraiment une chose
géniale,
différente.
Après récolte.
C'est-à-dire que ça permet aux personnes, et ça c'est d'un point de vue légal, il y a des textes de loi qui datent...
Il paraît qu'il y a une loi féodale qui reste
16e,
sur le
Une loi à peu près du milieu du 16e siècle qui autorise le glanage après récolte. Et c'est clair que les agriculteurs d'une manière générale sont très... comment dire, sont très attachés à la propriété, mais on peut très bien aller les voir, leur demander l'autorisation, et peu vont être réticents à permettre le glanage. Et c'est un échange de bons procédés, et en tout cas de respect, que de demander l'autorisation à l'agriculteur. Mais une fois qu'il a fait sa récolte, en règle générale, si c'est des pommes de terre, le fait encore d'avoir des pommes de terre qui n'ont pas été ramassées parce que les machines ne ramassent pas tout.
Mais ça, j'ai toujours vu ça. Tout mon enfance en Normandie, c'est
voilà,
c'est
exactement. Moi, dans le nord de la France, c'est exactement la même chose. Alors, dans toutes les régions, ne sont pas, d'un point de vue culturel, n'ont pas cette liberté-là. Mais en tout cas, de ramasser les surplus qui n'ont pas été récoltés, notamment pour la pomme de terre, ça évite d'avoir, je dirais, une concurrence de plantes qui serait non désiré dans la culture suivante.
Ça arrange tout le monde.
Voilà. Donc au final, je citais cette petite association Ondine, qui s'appelle Ondine dans la région lyonnaise, qui indique finalement à une multitude de personnes qu'il est possible de glaner à tel endroit. Voilà. Et ça, c'est tout à fait permis. De cueillir, ça ne l'est pas. Hein. Par exemple, si on parle des pommes, on demandera toujours de préférence l'autorisation par respect aux propriétaires, mais de ramasser les pommes sur l'arbre, c'est pas du tout la même chose que de ramasser les pommes qui sont au sol.
Surtout que ramasser souvent ils vendent que les fruits qui sont encore sur l'arbre, ils les ramassent sur l'arbre en fait, eux-mêmes ne ramassent pas au sol.
Voilà, exactement, ce qui est tombé au sol est considéré comme perdu. Donc là il y a vraiment un avantage à aller glaner les quelques fruits qui sont, et parfois c'est, je dis quelques, ça peut être des dizaines, des centaines de kilos.
C'est des quantités importantes,
mais par contre d'aller cueillir après une récolte, ça peut poser une problématique, je dirais, de commencer une récolte, même si la récolte a déjà été faite. Donc voilà, il y a vraiment de cueillir sur l'arbre, c'est, de par la loi, c'est considéré comme une récolte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment demander l'autorisation au propriétaire avant d'agir. Parce qu'on peut se dire, il a déjà récolté, on peut les cueillir derrière lui. Attention. Les textes de loi, et puis si on veut aussi garder une forme de convivialité, de respect et de courtoisie, restons corrects. Donc voilà, de parler de glanage, de parler de cueillette, ce genre de choses sont aujourd'hui parties en désuétude. Alors, on sait très bien que dans nos entourages, et on pratique chacun, je pense, autour de la table, ce genre de choses. Mais ça revient un petit peu et petit à petit au goût du jour. Et heureusement qu'il y a cet élan associatif, on peut parler aussi des incroyables comestibles, on peut parler de différents élans qui existent à travers le monde ou en France même. Il peut y avoir des endroits qui sont destinés à un partage de récoltes, un partage de fruits, un partage de légumes, des endroits qui sont destinés non plus à embellir que d'un point de vue ornemental, mais aussi de cultiver de façon à être dans une forme de production locale et vivrière. Alors tout le monde n'est pas forcément dans le besoin, dans ce genre de cas de figure, mais le fait d'avoir des espaces qui sont dédiés au partage permet de donner du lien social, permet d'avoir aussi une forme de partage, de convivialité, de choses qui reviennent tout simplement à l'essentiel, de faire ses confitures, de faire des jus avec des fruits abîmés. Dans certaines régions, et je pense notamment à la Bourgogne, il y a un mouvement associatif aussi qui s'organise vis-à-vis des vergers de particuliers, où il y a parfois des retraités qui n'ont plus la force physique d'entretenir leur verger, et ils sont bien contents que certaines personnes puissent cueillir leurs fruits ou une bonne partie de leurs fruits, moyennant peut-être une petite rétribution en nature, donc une petite part de la récolte et peut-être les plus beaux fruits destinés au propriétaire qui n'a plus la force physique de le faire. Et ça donne encore du lien intergénérationnel. Et ça, ce sont des petites initiatives qu'il faut peut-être encourager chacun dans nos entourages, parce qu'on voit parfois, oh là là, t'as vu le cerisier des voisins, ils croulent sous les cerises, ils sont pas là, qu'est-ce qu'on fait, on les appelle.
Les plaques miniers aussi. Là où il y a les kakis.
Les kakis. Ouais.
Ou les coins aussi, souvent.
C'est exactement. Que... Alors, on est dans
des fruits un peu délaissés.
Voilà.
Ouais. On est dans un territoire où il y a aussi beaucoup de résidences secondaires. Et justement, voilà, la période des récoltes pour les fruits, les pommes, les poires, etc., les propriétaires ne sont pas forcément là.
Mais ça peut être bien de les contacter, comme tu disais. Hein, c'est ça. Ça demande un peu d'organisation, mais c'est vrai que. Voilà,
exactement.
On ne va pas sauter le mur non plus et aller ramasser chez le voisin, quoi, c'est sûr.
Je voulais aussi vous parler d'un truc qui m'a fait rire en le lisant, mais bon, pourquoi pas. C'est le doggy bag. Il y a une communication qui se fait aujourd'hui de la part de l'État et qui, c'est une enquête pour l'instant, et il y a une majorité de personnes qui sembleraient favorables. Vous souvenez, depuis quelques années maintenant, consommer de l'alcool au restaurant, ça devient un petit peu plus problématique parce que on devient...
Ah. Oui, vis-à-vis. Pour la sortie du resto, tu veux dire ?
Pour la sortie du resto et la conduite.
Oui.
Donc, de repartir avec sa bouteille, parce que parfois les vins ne sont pas vendus au verre, quand on veut une bonne bouteille, on peut repartir avec sa bouteille et son bouchon. Donc, ça devient de plus en plus courant. Mmh. Ça devient accepté. Autrefois, je me souviens que
C'était mal vu. Ouais.
C'était pas vu d'un bon oeil.
Ça avait le but dans la cuisine, oui. Attends, on va bien profiter.
Exactement. Donc, maintenant, ça devient un peu plus courant. On repart avec la bouteille fermée, avec le bouchon et ainsi de suite. Là, par rapport au plat, certains n'arrivent pas à finir leur assiette. Il semblerait possible, en tout cas, et acceptable, de repartir avec les restes. Soit pour les manger, ou soit pour les donner finalement à son chien, soit pour les donner et pour éviter que finalement, dans ce restaurant, ça soit purement et simplement jeté à la poubelle.
D'accord.
Parce que rares sont les restaurants
qui recyclent
la nourriture.
Hein.
Faut le savoir quand même.
Bah, dit, on a le Chaiwala qui le pratique.
Voilà, mais rares sont les restaurants qui le pratiquent.
Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de valoriser quoi, dans l'ordre une nourriture qui est encore délicieuse ou mangeable. C'est dommage de la mettre au compost. Quoi.
Voilà.
Oui, déjà, non, bien sûr. Ouais, ouais.
En fait, mais après, c'est vrai que...
Moi, j'avais expérimenté de pouvoir récupérer composté. Les déchets de table pour le poulailler. Mais ça devient contraignant, c'est-à-dire qu'il faut passer tous les jours au resto. Non, c'est vrai.
Oui.
Il faut passer tous les jours au resto pour récupérer. Du coup, ça fait une tâche supplémentaire. Mais c'est des choses, pourquoi pas, en fonction, qui peuvent être envisagées. Quoi.
Un cochon dans la cour du resto.
Une histoire d'organisation, on fait son, ou le resto fait son cochon.
Et ouais, pourquoi pas.
Le cochon que vous voyez sera le pâté que vous mangerez. Pourquoi pas, en fait il y a une multitude par le biais associatif, il y a une multitude de choses qui émergent et là je vois par exemple une initiative du gâchimètre de pain où ce sont des grands cylindres transparents qui sont posés sur des places publiques et on voit les quantités de pain qui sont collectées exemple dans des boulangeries, dans des restaurants qui ne sont pas du tout utilisées. Et là, ça permet véritablement de visualiser
là, on se rend compte.
Hein, les quantités de pain qui peuvent être collectées.
Après, avant vente, tu veux dire ? Qui n'ont pas été vendus quoi, et qui sont jetés ?
Alors,
c'est une boulangerie
Ça peut être les invendus, ça peut être aussi
les gens qui
les restent.
Parce que la
corbeille de pain qu'on vous apporte
dans
les restaurants, le pain, une fois qu'il est tranché, il va sécher, surtout en ce moment. Mm. Il sèche très vite et il n'est pas réutilisable.
Surtout si c'est de la baguette.
D'autant plus. Donc voilà, il y a autant d'initiatives qui sont prises en compte et qui sont à développer. Je pense que chacun dans sa tête a une multitude de choses qui pourraient alimenter cet anti-gaspillage. Donc voilà, moi c'est une petite notion. Oui, Jérôme ?
Juste pour le pain, hein, moi je conseillerais aux gens d'aller vers un artisan boulanger, mais sur le marché plutôt, parce que c'est sur les marchés que moi je trouve le pain qui à la fois me convient le mieux et qui se conserve sur une durée beaucoup plus longue qu'en boulangerie traditionnelle. Hein, les pains, des pains cuits au four à bois, des pains avec des vraies farines bio issues de mélange de blé, de différents blés, non pas d'un seul blé panifiable harmonisé qui est cultivé sur toute la France, mais voilà.
On trouve quand même heureusement des boulangeries ou des endroits en boutique où on peut acheter ce genre de pain aussi.
Moi je dis sur le marché parce que c'est ma pratique, je vais surtout essentiellement sur le marché. Mais voilà, ce type de pain qui permet de le conserver, mais allègrement une semaine. Et qui permet de ne quasiment rien jeter. Moi, c'est voilà.
Et oui, le mode de consommation joue énormément.
Exactement.
Et c'est vrai que des pains qui sont faits notamment au levain.
Oui.
avec des farines demi-complètes ou complètes, se garderont plus longtemps qu'une baguette de pain blanc qui va sécher dans la demi-journée, surtout là en plein été.
Actuellement.
On peut aussi, oui, peut-être les conserver, envelopper dans un linge ou ce genre de choses, ou des pannes. Oui. Avant, il y avait des pannes pierres, des choses comme
oui,
ça.
Oui, dans une pièce fraîche. Ou la chaleur. Mais oui. Le facteur de température joue et ça joue sur la conservation du pain, donc ça se dessèche moins vite.
Et avec le pain sec, on peut faire du pudding, on peut faire du pain perdu, et on peut faire, il y a des recettes de pâtés végétaux à base de pain sec trempé dans du lait aussi.
On peut le mettre dans la soupe aussi. C'est pour ça que c'est bien de bien choisir son pain.
On peut en conserver une partie aussi pour le broyer en chapelure.
Ah oui, voilà aussi, tout à fait.
Pour faire les panures en cuisine. Voilà, donc. Et c'est sûr qu'il y a, multiples usages avant de jeter. Il y a de multiples usages possibles pour une réutilisation culinaire. Quoi.
Et le grille-pain, enfin, il faut y penser.
Ça marche parfois pas. Comme ça chauffe et ça dessèche, et ben, parfois c'est déjà trop sec. Mais c'est vrai que grille-pain, ça...
Mais le grille-pain
permet... On peut aussi...
Ça permet aussi de toaster par exemple du pain qui va être perdu et de le conserver dans des boîtes et de le ressortir à l'apéro pour les pâtés végétaux, pour faire des petits toasts grillés secs plutôt que d'acheter des biscuits salés qui sont infâmes et industriels. Et bien on sort les voilà.
Dans la famille,
c'est comme ça qu'est recyclé le pain qui semble être destiné à être perdu, quoi.
Ou sinon, on peut aussi parfois anticiper. Et puis, moi, je coupe parfois des tranches que je mets au congélateur. Et si je sais que je ne vais pas réussir à manger tout le pain en anticipant, on se constitue une petite réserve.
Et voilà. Et on sort le pain.
On peut le sortir au fur et à mesure, comme ça.
Voilà, du gaspillage.
Mais c'est les modes de consommation, c'est effectivement ça qui...
Du gaspillage au recyclage.
Mais les modes de consommation, les habitudes... quotidiennes qui sont à modifier par le trait d'exemple, et d'aller vers ses voisins et de d'expliquer en parlant, en discutant tout simplement.
Alors voilà, donc c'est vrai qu'au niveau particulier, au niveau individuel, on se dit on a plein de possibilités de ne pas gaspiller. Et effectivement, quand on regarde un peu certains sondages, 82% des Européens pensent ne pas gaspiller, voire très peu. Alors que voilà, les chiffres que je vous ai démontrés, donc d'après l'ADEME, c'est plus de 20 kilos par an et par habitant en France. On peut aller un peu plus suivant les régimes alimentaires de certains, mais ça paraît quand même énorme. Et en fin de compte, la partie gaspillée pourrait alimenter finalement la partie des personnes. Donc il y a quand même une personne sur six qui souffre de malnutrition. Et ça représente en Europe 79 millions de citoyens qui sont sous le seuil de pauvreté et notamment 16 millions qui sont totalement dépendants de l'aide alimentaire. Donc voilà, ces personnes pourraient être finalement aidées tout simplement par notre gaspillage. Et je ne veux pas être dans un sentiment culpabilisateur pour nos auditeurs, mais les gros efforts qui sont à fournir, c'est vraiment dans tout ce qui est chaîne logistique, du champ jusqu'aux sociétés de transformation, parmi la société de transformation des produits alimentaires, parmi les supermarchés. Et bien sûr, ça va être les détaillants et les restaurateurs, et je parle aussi de cantines collectives, qui sont les plus gros producteurs de gaspillage. Ce sont eux qui gaspillent le plus.
Mais c'est ça, et c'est l'accent... l'histoire d'échelle aussi.
Voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment bien que nos pouvoirs publics se remuent un petit peu par rapport à cette problématique. Je trouve que c'est très bien de parler de gaspillage et donner quelques chiffres, parce qu'on peut retrouver sur Internet tous ces chiffres. Mais l'accent doit être surtout mis pour ce qui est avant le consommateur final. Voilà, on n'imagine pas dans un restaurant, un simple et bête restaurant, la quantité de déchets qu'il peut y avoir. Et ces déchets, malheureusement, ne sont ni réutilisés pour l'alimentation animale, ni compostés. Tout ça, ça part après à la poubelle. Et là, je suis un peu révolté par rapport à ça. Donc on parle toujours sur ce sujet de gaspillage alimentaire, mais il peut y avoir éventuellement le recyclage, la réutilisation de ces denrées qui n'ont pas pu être consommées. Et ça, il y a des possibilités de le faire, mais il faut vraiment se bouger.
Bah merci Olivier.
On fait une petite pause musicale.
Eh oui.
Et puis on se retrouve après.
Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés. Ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar. Alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde je le domine, que son avenir je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni morale ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée, elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité. Sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto. Que de la vie du monde et son avenir, on est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse.
Vous êtes bien sûr Pelmelbèche, l'émission des Jardins, sur Radio Diwa, en FM, sur 107.5, et en podcast. Vous pouvez écouter également nos émissions sur rdwa.fr. Alors, Jérôme, nous avons écouté Monsanto de Colibri. Voilà, et tu vas pouvoir nous parler.
Ben, je vais vous parler un peu de jardinage et de ce qu'il est possible de faire au mois d'août. Et surtout, surtout la première chose, le mois d'août, c'est un mois qui est assez important parce que c'est le gros mois des récoltes. En fait, tout le travail que l'on a fait précédemment paye ses fruits, paye pleinement en fin de compte. Hein. Donc là, on récolte les haricots, on récolte les premières carottes, on récolte les courgettes, on a forcément les tomates. Sylvère a parlé des aubergines, logiquement, on a les premières aubergines. Enfin, tous les bons produits, on a des salades. Voilà, donc qu'est-ce qu'il est bon de faire au mois d'août? Eh bien, c'est de continuer l'entretien. C'est vrai que le mois d'août, en général, c'est un mois où on est en plein cœur de l'été. C'est souvent le mois le plus chaud. Ça fait des mois qu'on jardine, mais il y a une ambiance un peu estivale, un peu vacances, un peu dilettante qui s'installe. Et souvent, ben, on est un peu fatigué parce qu'on a fait X barbecue, on a rencontré des amis qui viennent en vacances, qui viennent nous voir, on voit la famille, on fait des rencontres parce que ben, y a des touristes, voilà, où on est aux abords d'un camping, on rencontre des gens. Et le jardin, souvent, il en pâtit un petit peu parce que ben, on accumule un peu cette fatigue. Mmh. Et voilà. Mais c'est le mois qui est quand même assez charnière parce que c'est le mois où l'on implante pas mal de légumes pour les récoltes d'automne et d'hiver. Le mois d'août, c'est le moment, en général, vers la mi-août, on sème les navets pour la conservation d'hiver. On peut encore installer toutes les chicorées, les frisées, l'escarole, la pain de sucre, hein, qui est une salade qui monte en cône. Voilà. On peut planter encore les derniers choux chinois, alors en n'omettant pas de les protéger contre l'altise, parce qu'il fait très chaud, l'altise va être là. Hein. Donc soit on a la possibilité de faire les douchages, de pouvoir doucher les plantes à l'eau froide régulièrement, mais il fait très chaud. Moi, je conseillerais plutôt de se procurer un petit voile anti-insectes. Comme ça, au moins, on est sûr. Le chou, ça le dérange pas d'avoir le voile sur le feuillage, il va pousser. Par contre, bon, ben c'est le mois où il faut, évidemment, comme il fait très chaud, bien protéger le pied des plantes. Donc, recréer, entretenir le paillage si on procède par paillage pour maintenir l'humidité dans le sol et continuer aussi à arroser, surveiller l'hydratation du sol pour que les plantes puissent s'exprimer. On a parlé du poireau dans les précédentes émissions. Là, le poireau, il est en culture, ça y est, c'est le moment et de le désherber par le moyen de butage, d'entretenir l'arrosage aussi, de faire attention, donc de commencer à surveiller, parce qu'on approche, donc on est au mois d'août, mois de septembre arrive, on peut déjà anticiper, se dire, tiens, il faut que je prépare soit le matériel, soit l'installation nécessaire pour éviter le vol de la mouche du poireau, qui peut venir pondre à partir de fin août, début septembre. Donc, on l'a déjà précisé, le poireau n'aime pas avoir un voile directement sur les feuilles. Donc, il faut se procurer ou fabriquer des arceaux en noisetier ou enfin bon, trouver un moyen pour pouvoir poser le voile dessus pour faire des petites chenillettes. Si on a une exposition un peu fraîche, eh bien, on peut recommencer à faire un peu du radis. Hein, si on a le soleil, il fait chaud, mais les jours ont commencé à décroître quand même fortement, et notamment après le 15 août. Donc là, après le 15 août, on peut recommencer déjà à refaire des radis en exposition fraîche, si on bénéficie de ça. Évidemment, si on a de la rhubarbe et qu'on a de l'eau, eh bien, on peut récolter encore la rhubarbe. Alors là, à ce moment-là, on est facilement, si on a un bon terrain qui est à la fois riche et qui retient l'eau, si on a une bonne exposition, on est facilement dans la troisième ou quatrième récolte là, sur la rhubarbe. J'en parle parce que moi, j'adore la rhubarbe, alors que j'ai entendu dire que, en général, les hommes n'aimaient pas la rhubarbe, mais c'est peut-être un truc.
Tu sors de la catégorie générale, quoi.
Je sais pas si c'est général parce que je connais plein de
ouais, je te rassure, j'adore aussi la rhubarbe.
Ben, c'est très très bon la rhubarbe. J'ai pas très bien compris la fois où j'en avais entendu ça dans une
Vous avez aussi notre émission.
Ben voilà, en tous les cas, ce qu'il faut, c'est tenir.
Olivier voulait faire un petit jeu de mots entre la rhubarbe et la barbe.
On est tous barbus autour du micro.
D'accord.
Parmi les hommes, j'entends.
Donc tu veux dire barbe. Ok. Donc au niveau de la barbe, on est à la rue.
Qui fait mentir l'adage.
Hors catégorie.
On est hors catégorie. En tout cas, le mois d'août, il est important. Il est important, voilà, il faut entretenir ses cultures de choux, il faut surveiller l'enherbement. Au mois d'août, on se fait souvent prendre, on a l'impression que la saison est finie, parce que justement les nuits sont un peu plus fraîches, que les jours décroissent et tout ça. On se dit au niveau enherbement, non, mais c'est bon. Mais en fait, non, pas du tout. Effectivement, les jours décroissent, mais les plantes dites indésirables, mais spontanées dans nos jardins, elles le sentent aussi, ça. Elles sont photosensibles, elles sont, voilà, au niveau de la période d'ensoleillement, elles le ressentent. Eh bien, elles accélèrent leur processus de croissance, d'où l'importance de surveiller l'enherbement. Parce que moi, j'ai déjà vu, plus tard en saison, mais au mois d'octobre, des amarantes, hein, vous voyez, l'amarante, hein, celle qui pousse, qui peut devenir très exubérante en terre très azotée, là où c'est bien fumé, et qui produit une quantité de graines assez époustouflante alors qu'elle est bien verte. encore, c'est une plante un peu elle est, c'est pour ça elle est marrante dans son style, elle a son style de
la marrante,
elle marrante à son humour à elle. Et moi j'ai déjà vu des amarantes de 12-15 cm à l'automne, approche des gelées, avec
des graines.
Voilà. Mm-hmm. Et donc c'est pour ça qu'il est important, au mois d'août il ne faut surtout pas lâcher, c'est un mois qui est assez charnière, à la fois parce qu'on a beaucoup de récoltes, alors suivant le jardin que l'on a, on a beaucoup de récoltes qui en général sont là en quantité, donc ils demandent à les transformer si on veut les conserver pour se régaler un peu plus longtemps dans la saison, donc il faut faire des transformations, et en même temps on a les installations de culture les dernières installations de culture d'hiver, hein, comme les navets, les derniers choux, les chicorées, les choses comme ça. Et on a l'entretien des légumes d'hiver qu'on a mis en place au début de l'été. Donc là, on est sur le panel large, hein, on a un spectre très très large à couvrir. Voilà. Et donc
attention le hamac. Hein,
Attention au hamac, ouais. À l'utiliser à bon escient aux bonnes heures.
Et sur le mois d'août, ne sois pas trop mou.
Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. On peut le dire comme ça. Bon voilà. Adage. À noter dans les calendriers celui-là pour le mois d'août. Voilà. Évidemment, on entretient son jardin d'agrément, si on en a un, si on a installé des fleurs et tout ça, pareil, là, on va veiller à maintenir le paillage, à arroser, à désherber aussi ces parterres. Qu'est-ce que l'on a au mois d'août au niveau fruits en général? Là, les prunes sont passées. Si on a des framboises, on a encore des framboises. Si on a des remontantes, on a les framboises à entretenir et à récolter. À se régaler, à faire des tartes ou alors à manger en frais ou encore faire des confitures. La reine des confitures, c'est celle de framboise, enfin, pour ce qui me concerne.
Voilà, elle est délicieuse, ta confiture.
On peut avoir des... oui, vous avez eu le loisir dans ce studio de pouvoir la déguster.
Ainsi que ton sirop, d'ailleurs, de framboise.
Et le sirop aussi, oui.
Oui. Okay, oui, les framboises.
Oui, oui. Et puis, si on a des fraises aussi, des fraises, il existe des fraises de 4 saisons, les fraises, des fraises remontantes. Là aussi, on peut avoir encore des petits fruits rouges. En attendant, le mois d'août, c'est les premières poires aussi. Si vous avez la chance d'avoir des Williams, la reine des poires, à mon sens, c'est en général vers la fin août. Hein, vers la fin août, les premières récoltes de poires Williams interviennent. Et à consommer sans modération. Voilà pour le mois. Et j'insiste une troisième fois, c'est le mois de toutes les surveillances. Il faut rester vigilant. Bien être vigilant, et grâce à ça, le panier sera bien garni, et le garde-manger aussi, quasiment jusqu'à la prochaine saison. Si on assure le mois d'août, en général, on est garanti plus ou moins d'avoir des provisions.
Et puis c'est là où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits avant, qui, comme tu l'as dit au début, qui payent en août. C'est vrai que chez nous, on a des saisons quand même courtes.
C'est assez court, oui.
Quand on n'a pas de serre, tout ça, toutes les tomates, c'est là que ça vient, en août. Hein. Mm-hmm.
Donc voilà pour les travaux du jardin au mois d'août. Alors est-ce qu'on a des dates ou des infos avant de nous quitter, de
Alors,
laisser nos auditeurs...
Alors pour le mois d'août, moi j'ai pas d'agenda, mais par contre j'aurais voulu faire un petit flashback, une petite impression personnelle par rapport à une petite expo atelier qui a eu lieu à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Mmh. C'était le 13 juillet, dimanche 13 juillet. Couleur impression, donc voilà, c'était la visite des jardins de plantes tinctoriales et les différentes démonstrations de gravures sur bois, de sérigraphie avec des teintures végétales. Donc voilà, c'était vraiment très très passionnant, une multitude de gens qui étaient très compétents dans leur domaine respectif. Mmh. Et c'est très intéressant de voir que finalement il y a un intérêt de retrouver des savoir-faire anciens, d'utiliser des teintures naturelles à base de plantes, et puis les techniques aussi de sérigraphie et de gravure sur tissu, sur papier. Ouais. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un chouette événement, et j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir à l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Ouais. Et oui, il y avait eu en 2012 Jour de Bleu, où j'avais
Exactement.
Beaucoup apprécié aussi justement toutes les teintures avec l'indigo, et c'était vraiment vraiment sympathique, en plus dans un lieu magnifique. Et bon, pour l'instant, ça, c'était il y a 2 ans. Espérons qu'il y en aura peut-être un l'année prochaine pour raccourcir la cadence.
Faut le souhaiter. Donc, effectivement, il y avait des structures locales, des personnes locales. Il y avait notamment Marie Marquet, il y avait Johan Puzelver, Colin Levenberg, Mireille Vallée et Marie Van Gisel qui étaient présents, donc des gens du Diwa et extérieurs au Diwa, mais en tout cas qui connaissaient vraiment leur domaine et qui avaient une grande passion à partager parmi les gens qui venaient visiter ces jardins.
D'accord, donc les plantes tinctoriales pourraient faire l'occasion d'une chronique pour redécouvrir soi-même. Exactement. Et faire découvrir à nos auditeurs quelles sont ces plantes tinctoriales, parce que je pense que il n'y en a pas beaucoup qui pourraient nous en citer trois là comme ça spontanément.
Oh bah si.
Non,
y a
non
été.
Mais nous on connaît. on va dire que nous on connaît, mais quand je dis le nous, c'est le nous général.
Oui,
de,
c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
On a complètement perdu. C'est
ça fait
la betterave.
Par exemple, oui.
Ça faisait partie d'une économie réelle.
D'une économie réelle, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Exactement.
Bien sûr.
Tout ça fait de cocagne.
Exactement.
Et
bien.
Et oui. Non, mais
tout à fait.
Ah ben, on est cultivé.
C'est cultivé.
En studio, ouais. Attention, ouais. Ça rigole pas, Appelmes.
On se cultive et on se jardine.
Voilà. Bien. Et eh ben, je crois qu'on a fini. On va laisser nos auditeurs aller à leurs occupations.
Voilà.
Avec tout plein d'idées en tête, puisque on a bien. On a fait ressortir quelques petits trucs pour déjà éviter le gaspillage et recycler. Et puis voilà, avec plein de petites données et de conseils.
Mmh. Voilà. Profiter des arbres, des aubergines et du jardin.
Exactement.
Voilà.
Bon appétit, bon après-midi.
Bon été à tous.
Voilà, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances.
Et bon jardinage.